Merci à vous. Bonjour à tout le monde. On va, oui, on m'a fait coucou là, c'est bien. Vous êtes toujours, toujours là. Salut Julien, je te vois. On va ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc. En ce moment, je lis l'évangile de Luc, et donc on va s'arrêter sur un passage qui se trouve en Luc, chapitre 18, tout au début, les 8 premiers versets, et qui parle d'une rencontre entre une veuve et un juge. Et je vais partager mon écran avec vous. On a la veuve et le juge, Matthieu 18, les 8 premiers versets. Et je vais demander à Sandrine de lire ce texte pour nous avant de commencer le message.
Jésus leur disait cette parabole pour leur montrer qu'ils devaient toujours prier, sans jamais se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne se souciait pas de Dieu et n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait chaque fois lui dire « Rends-moi justice contre mon adversaire !» Pendant longtemps, le juge refusa, puis il se dit « Bien sûr, je ne me soucie pas de Dieu et je n'ai d'égard pour personne. Mais comme cette veuve me fatigue, je vais faire reconnaître ses droits pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Puis le Seigneur ajouta « Écoutez ce que dit ce juge indigne. Et Dieu, lui, ne ferait-il pas justice à ceux qu'il a choisis quand il crie à lui jour et nuit? Tardera-t-il à les aider? Je vous le déclare, il leur fera justice rapidement. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?»
Donc voilà, donc c'est l'histoire de la veuve et ce juge. Et dans ce texte, Jésus il parle avec ses amis proches. Donc son auditoire, c'est ses amis. Et Jésus, comme beaucoup d'entre nous savent, Jésus utilisait des histoires de tous les jours pour enseigner ce qu'on appelait les paraboles. Et bon, c'est pas une parabole pour capter Canal+, c'est une parabole pour comprendre ce que Jésus voulait dire à travers ces histoires. Et Jésus n'expliquait pas toujours ces paraboles. Mais l'auteur Luc, dans ce texte, donne la signification pour celle-ci avant qu'elle ne soit racontée, en fait. Et c'est dit directement dans le texte, on doit toujours prier sans jamais se décourager. Donc il y a une première signification qui est donnée directement avant l'histoire, avant que l'histoire commence. Et dans l'histoire, il y a deux acteurs principaux, le juge et une veuve. Le juge. Donc, je vais repartager vite une image. Et bon, c'est pris d'un film qu'on a regardé avec Zach et Sandrine dernièrement, qui s'appelle Le bon, le mauvais et le brigand.
Le bon, la brute et le truand.
Le bon, le brut et le truand. Et donc cet homme-là, il s'appelle les yeux d'ange. C'est le nom du personnage. Et bon, c'est dans l'histoire, c'est le méchant. Et donc le juge dans cette histoire est un personnage type, un type très mauvais en fait. Il représente quelqu'un qu'on rencontrait souvent dans la société juive de l'époque, l'homme en position de force, corrompu et qui n'exerçait pas son pouvoir de manière juste. Il abusait de son pouvoir et De nos jours, on n'a pas à chercher loin de voir dans les médias des histoires d'abus de pouvoir. Donc, ce juge, il représente un personnage type d'actualité à l'époque de Jésus, mais aussi d'actualité de nos jours. Et si Jésus utilise ce type de personne, ce méchant, c'est qu'il était un reflet de la réalité de l'époque de Jésus. Et on va voir dans la Bible que Dieu parle de son propre peuple de cette manière. Dans la Bible, dans le livre d'Amos, on parle de ce type de personnage parmi les leaders du peuple juif même. Et donc Sandrine va nous lire le texte en Amos qui part de ces leaders corrompus, ces juges corrompus.
Vous haïssez celui qui défend le droit en justice. Vous détestez celui qui parle avec sincérité. Vous exploitez le pauvre et vous lui prenez du blé de sa récolte. Vous opprimez le juste. Vous acceptez des pots de vin et vous lésez le droit des pauvres en justice.
C'est la description de Dieu des leaders du peuple d'Israël de l'époque d'Amos. Et bon, Jésus prend ce type de personnage dans son histoire du juge de la veuve. La description du juge dans notre histoire n'est pas très flatteuse. Le juge ne se soucie pas de Dieu et il n'a d'égard pour personne. Donc nous avons un juge qui appartient au peuple juif, le peuple que Dieu a choisi pour révéler sa loi et la mettre en pratique. Donc un juge qui se fiche de Dieu et par conséquent de sa loi et qui se fiche de tout le monde. Il n'a d'égard pour personne. Et donc, moi, personnellement, si j'avais des soucis sur le plan légal, je l'espère que ça sera jamais le cas, je n'aurais pas forcément envie de me présenter devant cette personne. Je pense pas, donc, qu'on prend de risque si on dit que cette personne dans notre histoire, c'est le méchant. Alors, deuxième personnage, encore un personnage type dans l'histoire, c'est la veuve. Et elle reflétait aussi la réalité de beaucoup de personnes en Israël à l'époque. Elle avait de nombreux obstacles devant elle, cette dame. D'abord, avant son cas particulier, le peuple juif même était opprimé, car il était sous l'occupation romaine à l'époque de Jésus. Vous avez constaté ça certainement. Beaucoup de Juifs espéraient sortir de cette condition et prier qu'un roi sauveur se lève pour les libérer de leurs oppresseurs. Tout le peuple juif a certainement expérimenté les sentiments du peuple français lors de l'occupation pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, vous pouvez penser à cette époque. Et ces Juifs qui vivaient sous les pressions et déjà ils étaient dans un état de difficulté. Donc le premier obstacle pour cette veuve est l'oppression générale de son peuple. Et ça, sans parler de, si vous voulez, de l'oppression de la reine de l'injustice par notre propre péché. Donc elle vivait déjà dans une époque où son peuple était opprimé. Puis, dans cette histoire, il s'agit d'une femme. Donc, c'est l'histoire d'une femme. Et dans la culture juive de l'époque, la place des femmes n'était pas égale à celle des hommes. Autrement dit, c'est les patriarches qui exerçaient le pouvoir et opprimaient les femmes. Au premier siècle, les femmes étaient considérées comme inférieures dans quasi tous les domaines de la vie. La plupart du temps, ça allait jusqu'au fait qu'elle n'avait pas le droit d'hériter d'un bien. Donc, rien de la famille à la mort des parents. Aucun rabbin n'aurait admis des femmes parmi des disciples. Donc, pas de possibilité d'entrer dans cette école qu'offraient les rabbins de l'époque. C'était pas ouvert aux femmes. Et, important pour notre histoire, elle n'avait pas non plus la parole en tant que témoin en justice. Donc, elle pouvait pas se présenter devant la justice pour être témoin. Et donc, si cette femme ose se présenter devant ce juge dans l'histoire de Jésus, c'est qu'elle était vraiment seule au monde. Elle avait aucun autre choix que de se présenter elle-même devant le juge. Donc, premier obstacle, c'est l'oppression générale de son peuple. Deuxième, elle est une femme. Troisième, elle est veuve. On sait au moins pour une partie qu'elle était seule, justement parce qu'elle est veuve. Elle n'avait pas de mari. Et parce que les veuves passaient souvent inaperçues aux yeux des hommes, la plupart du temps, les veuves se trouvaient dans des situations précaires, sur le plan matériel, sur le plan social, surtout celles sans enfants, et dans notre histoire, sur le plan légal. L'oppression et les dommages causés par l'opposition étaient la norme pour les veuves. Oppression générale, c'est une femme, elle est veuve, et en plus, elle a un adversaire dans l'histoire. Et on sait du texte que l'adversaire le traite de manière frauduleuse. Je ne sais pas si vous vous êtes trouvé dans des situations où quelqu'un essaie de vous frauder, de prendre quelque chose de manière illégale, mais c'était le cas dans cette histoire. On sait ça parce qu'elle demande que sa situation soit rectifiée devant ce juge. Et on sait ça parce qu'elle s'est montrée convaincue de son droit, parce qu'elle revient sans cesse réclamer justice. On peut imaginer que sa persistance, le fait de revenir constamment, montre que c'était peut-être une situation grave, peut-être une situation financière qui était une question de vie ou de mort pour cette femme. Avec tout ça, et dans son désespoir, elle se retrouve face à qui ? Face à cet homme, ce juge, qui ne soucie pas de Dieu et n'a d'égard pour personne, surtout elle, une veuve. Elle vit sous l'occupation, c'est une femme dans une société dominée par les hommes, elle est veuve, elle a un adversaire qui essaie de la gruger, et elle est devant un juge corrompu qui n'a rien à faire d'elle. C'est pas la meilleure des situations pour cette personne. Et donc, ce personnage type, la veuve, elle représente une personne impuissante, au plus bas de l'échelle sociale, seule, démunie, sans défense, mal aimée, laissée pour compte. Elle est une personne presque sans mérite aux yeux de la société. Alors, donc vous avez les acteurs qui se trouvent dans cette histoire. Maintenant, on va regarder un peu plus ce que la Bible dit effectivement sur les veuves. Et donc, je vais repartager mon écran avec vous. Et Sandrine va m'aider dans la lecture par rapport à ça. Et dans un premier temps, quand la Bible parle des veuves, la loi de Dieu a toujours été bienveillante envers les veuves. Donc, le premier verset.
Vous n'opprimerez jamais ni la veuve ni l'orphelin.
C'est très simple. Vous n'opprimerez jamais la veuve. Dieu a, à leur égard, les veuves, une attention toute particulière dans les deux prochains versets.
Il est le père des orphelins et le défenseur des veuves. Oui, tel est Dieu dans sa sainte habitation. L'Éternel renverse la maison des orgueilleux, mais il protège la propriété de la veuve.
Donc Dieu, il veille sur les veuves, les protège, le défenseur, c'est lui le défenseur des veuves. Troisième chose qu'on peut trouver dans la Bible par rapport aux veuves, et ça c'est Jésus dans un autre discours dans l'évangile de Marc, et il aborde le sujet s'en prenant vertement à ceux qui ne cultivent pas la passion envers les veuves, et voilà la compassion envers les veuves. Donc voilà ce qu'il a dit.
Prenez garde aux spécialistes des Écritures qui aiment se promener en beaux vêtements et être salués sur les places publiques. Ils choisissent les sièges les plus en vue dans les synagogues et les places d'honneur dans les grands repas. Ils dévorent les biens des veuves.
Et donc, dans l'histoire, vous avez un juge juif qui devait connaître la loi de Dieu. Et la loi de Dieu est clairement du côté de cette personne qui se retrouve face à lui. Donc, qui montre à quel point cet homme est égoïste et agit selon son cœur mauvais. Donc, malgré tous ces conseils de Dieu, de telles injustices existaient et elles existent toujours. L'injustice envers les veuves et comme dans ces versets des orphelins. Et donc, je voulais juste rapidement voir quelques attitudes, enfin un mot sur l'attitude de Dieu sur l'injustice. Et bon, c'est un très grand sujet, le sujet de la justice sociale, ou bien le fait que l'injustice existe dans le monde, le mal, pourquoi le mal existe. Et cette histoire évoque cette idée de l'injustice qui existe dans le monde de Jésus et dans notre monde d'aujourd'hui. Mais on va regarder juste quelques principes, quelques versets brièvement qui parlent de l'attitude de Dieu par rapport à l'injustice. Et donc, la première chose qu'on peut dire, et puis bon, c'est presque inutile de le dire, mais c'est que les injustices existent et elles sont réelles et elles créent de la difficulté, elles créent des catastrophes dans la vie des personnes. Donc, les injustices existent, elles sont réelles. Mais la première chose à dire par rapport à Dieu et l'injustice, c'est que Dieu n'est pas la source des injustices dans le monde. Et le premier verset répond à cela.
Dieu n'agit jamais mal. Jamais le Tout-Puissant ne fausse la justice.
Dieu n'agit jamais mal. Dieu ne fausse jamais la justice. Dieu n'est pas la source des injustices dans ce monde. Et Dieu n'est pas, dans d'autres religions, on peut voir, par exemple, comme dans l'hindouisme, Dieu n'est pas comme les dieux hindous qui sont supposés faire progresser les âmes et parfois faire subir aux personnes la souffrance ou les injustices dans une vie pour atteindre un niveau supérieur dans un autre. Ça, c'est pas Dieu. Ce n'est pas son caractère. C'est pas lui qui fera ce type de choses. Dieu n'est pas source d'injustice. Et la Bible nous dit très clairement dans le prochain verset que Dieu est juste lui-même.
Car l'Éternel est un Dieu juste et il aime les actes accomplis selon la justice.
Voilà, Dieu lui-même est juste et tout ce qu'il fait, tous ses actes sont justes. Comme c'est dit plus haut, il ne fausse jamais la justice. Lui-même, il peut jamais faire quelque chose qui est injuste envers nous. Et on peut se poser la question parfois, mais pourquoi ça m'arrive? Et on peut avoir cette réaction d'injustice. Mais les actes de Dieu sont toujours justes. Et pour pousser ça un peu plus loin, dans le cas des opprimés, les personnes qui subissent les injustices, la Bible en parle beaucoup. Et puis bon, on va juste citer un seul exemple de verset pour l'attitude de Dieu qui œuvre en faveur des opprimés.
Les opprimés, les pauvres cherchent de l'eau sans en trouver. Et la soif dessèche leur langue. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les délaisserai pas.
Donc, ceux qui sont victimes d'injustice, ceux qui se trouvent dans des positions d'oppression, Dieu œuvre en faveur de ces personnes. Et Dieu ne délaisse pas la personne qui est opprimée, la personne qui subit l'injustice. Alors, si Dieu n'est pas source d'injustice, d'où vient cette injustice ? Voilà, excusez-moi. Donc, la Bible nous explique que c'est l'homme qui commet des injustices. Et quand l'homme commet de l'injustice, Dieu désapprouve ces actes-là. Donc, c'est en Romains 1, 18 où on trouve cette idée.
Du haut du ciel, Dieu révèle sa colère contre toute marque de mépris envers lui et toute injustice commise par les humains qui étouffent la vérité par le mal qu'ils commettent.
Donc effectivement, dans l'histoire de ce juge et la veuve, le juge, il étouffe la vérité de cette veuve. Elle demande justice, et dans toutes les fois qu'elle vient les premières fois, il répond pas de manière juste. L'homme commet des injustices. L'homme commet des actes de mépris envers d'autres hommes et d'autres femmes. Mais Dieu n'approuve pas du tout ces actes d'injustice. Et en tant que chrétien, on peut se demander, on doit savoir, mais on peut se demander quelle devrait être notre attitude envers l'injustice dans le monde. Est-ce que nous devons dire 7 millions de Chinois, et moi, et moi, et moi, j'y pense et j'y oublie? Est-ce qu'on doit dire 12 millions d'Ouïghours en Chine, et moi, et moi, et moi, j'y pense et j'y oublie? Comme un certain Jacques a dit une fois, devons-nous se ficher des autres comme le juge dans notre histoire? Est-ce que nous sommes concernés nous-mêmes par l'injustice dans ce monde? Ou devons-nous prendre l'attitude du père des orphelins et les veuves? Donc, je pense que vous voyez où je vais tomber. Il est naturel que le chrétien imite Dieu dans la recherche de la justice pour les opprimés, et la Bible enseigne clairement cette attitude. Et le dernier verset sur l'écran dit:
efforcez-vous de pratiquer le bien, d'agir avec droiture, assistez l'opprimé et défendez le droit de l'orphelin, plaidez la cause de la veuve.
Assistez l'opprimé, plaidez la cause de la veuve. Ainsi parle l'Éternel. Observez le droit et pratiquez la justice, car mon salut est sur le point d'arriver et ma justice de se révéler. On est, en tant que chrétien, Dieu nous appelle à assister l'opprimé, à plaider la cause des veuves, des personnes en position d'oppression. Le juge, dans notre histoire ne pratique pas du tout le bien dans le cas de cette veuve. Au contraire, il considère le fait qu'elle revienne sans cesse l'importuner comme un tabassage qui se solderait par un œil au beurre noir. En fait, le texte grec utilise cette expression, le fait qu'elle revient, c'est comme elle le tape sur la tête avec ses demandes de justice. Il en a marre de la vieille, ce juge. Elle revient sans cesse. Parce qu'il a ras-le-bol de cette dame, et juste pour se débarrasser d'elle, finalement, à la fin de notre histoire, il rend justice. Alors, si la veuve n'a aucun mérite aux yeux de la société, si elle est au plus bas de l'échelle de la société, elle a au moins deux mérites dans cette histoire, mérites que nous pouvons copier. Premièrement, c'est sa foi. Elle croit qu'elle va recevoir justice. Elle est convaincue qu'elle va recevoir justice. Si elle n'était pas convaincue qu'elle allait recevoir justice, elle aurait cessé d'aller voir le juge. Et puis, la deuxième chose, deuxième mérite, c'est sa persistance. Elle revient sans cesse réclamer justice. Et donc, dans cette histoire, elle démontre la persistance. Mais cette persistance n'est pas une obsession. La leçon de cette histoire, la leçon centrale de cette histoire, n'est pas que si on secoue Dieu assez, on obtiendra finalement gain de cause. C'est pas la leçon centrale de l'histoire. Et pour illustrer ça, je vais vous montrer une vidéo. Voilà. Donc c'est juste pour vous montrer cette histoire, c'est pas ça en fait. Dieu n'est pas une espèce de distributeur de justice. Si on le secoue assez, on reçoit gain de cause. La persistance de la veuve n'est pas pour enseigner de harceler Dieu, mais de prier sans se décourager. Alors, un petit dernier mot sur le juge. Jésus utilise ce juge, ce type de personnage, pour démontrer le contraste qu'il y a entre une telle personne, un juge corrompu, teinté par son péché, insensible aux autres, le contraste entre ce type d'homme et Dieu, qui est bienveillant, aimant et parfaitement saint dans toutes ses actions. Et puis, bon, on peut se dire que si on réfléchit à notre place dans cette histoire, on peut dire que, waouh, peut-être je me sens pas du tout aussi juste que Dieu. Et donc, je peux me permettre de me retrouver dans la catégorie des méchants de l'histoire. Je suis pas un juste. Mais c'est important de rappeler pour nous que Jésus est venu la première fois, donc à l'époque où il racontait cette histoire, pour nous offrir sa justice. Devant notre incapacité à agir de manière totalement juste dans cette vie, nous sommes impuissants, sans mérite. Mais si nous croyons en lui, nous pouvons avoir la confiance qui est indiquée dans 2 Corinthiens, cette confiance qui dit
« Celui qui était innocent de tout péché, Jésus, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que dans l'union avec Christ, nous recevions la justice que Dieu accorde. »
Donc si on se sent pas juste, si on se sent plus dans la catégorie des mauvais de l'histoire, il est important qu'on s'accroche à cette vérité que la Bible nous donne, que nous recevions la justice que Dieu nous accorde, et on peut se retrouver dans le camp des justes. En sachant cela et en croyant cela, quand Jésus demande qu'on prie, nous pouvons prier avec la foi d'une personne justifiée. Nous pouvons prier surtout en sachant que nous avons, nous, en tant que chrétiens, le meilleur des avocats. Et donc, la dernière question, une des leçons principales de ce texte, c'est alors, comment prier? Et il y a plusieurs manières qui sont indiquées à travers ce texte. La première, c'est que nous devons prier avec foi. La ténacité de cette veuve, à l'image d'une personne convaincue, Pour le chrétien, c'est synonyme avec une foi solide dans les paroles et les actions de Dieu. Le fait qu'elle était, elle, convaincue qu'elle va recevoir justice, pour nous, si on se met à sa place, ça veut dire que nous, on a confiance dans la parole de Dieu et dans l'action de Dieu dans notre vie. Comment prier? Une deuxième manière qui est indiquée tout au début du passage, prier sans relâche. Nous sommes appelés, et on le voit dans les lettres de Paul, nous sommes appelés à prier sans cesse. Cette histoire est juste encore un rappel à la constance dans la prière. Pas dans la répétition vaine, comme dit l'Écriture, pas dans l'harcèlement de Dieu, comme on a vu tout à l'heure. C'est pas de secouer Dieu, si on fait ceci, Dieu va faire cela. Mais c'est un appel de rester constant dans notre prière. Et en parlant de prière, on peut regarder un peu la question de nos motivations pour prier. Nous ne devons pas prier comme on aborde ce distributeur d'Orangina. Nous sommes appelés à prier selon le cœur de Dieu, c'est-à-dire pour les choses qui s'alignent avec sa pensée et qui sont détaillées dans sa parole. Jésus a dit en Matthieu 6, 33, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu, cherchez à faire sa volonté, et Dieu vous accordera aussi tout le reste. » Nous devons prier selon la volonté de Dieu, pas parce qu'on veut recevoir la canette, mais parce qu'on veut faire ce que Dieu nous demande de faire. Jacques nous montre que c'est pas toujours le cas dans notre cœur et dans nos actions. Il dit, et si vous demandez et vous ne recevez pas, c'est parce que vos demandes sont mauvaises. Vous voulez tout gaspiller pour vos plaisirs. Donc Jacques évoque cette idée de prier selon les mauvaises motivations. Et Jean, donc Jean l'évangéliste, nous remet dans la bonne attitude par rapport à la prière en disant, voici l'assurance que nous avons devant Dieu. Si nous lui demandons quelque chose de conforme à sa volonté, il nous écoute. Donc dans la prière, si nous prions, nous devons prier avec foi. Comme cette dame qui était convaincue de recevoir justice. Nous devons prier sans relâche. Comme elle est revenue sans cesse vers le juge, nous devons prier sans relâche, être constant dans la prière. Et nous devons prier comme on vient de voir, pas pour recevoir la canette d'Orangina, mais nous devons prier selon la volonté de Dieu. Et puis la dernière chose, et qui est la dernière partie de ce passage, nous devons prier en gardant la fin de l'histoire en vue. Et donc pour Jésus, dans ce passage, où il raconte l'histoire du juge et la veuve, la fin en vue, c'était son retour. C'était le retour de Christ. Dans notre passage, Jésus termine son histoire en disant à ses amis, le Fils de l'homme viendra. Notre histoire ne s'arrête pas là. La Bible nous dit que Jésus va revenir et achever ce travail de justice qu'il a commencé. Et Paul parle de ce moment de retour de Jésus, dans une lettre qu'il écrit aux Thessaloniciens, et voilà ce qu'il a dit.
Voici en effet ce que nous déclarons d'après une parole du Seigneur, à un signal donné, à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Les personnes qui sont mortes, unies à Christ, se relèveront les premières. Ensuite,
Nous qui serons encore en vie à ce moment-là, nous serons enlevés avec eux au travers des nuages pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres par ces paroles.
Voilà, donc le contexte de cette histoire que Jésus racontait à ses amis était précédé de ses paroles de son retour. Et puis, il termine son histoire par rapport à la veuve avec ces mêmes paroles pour donner du réconfort à ses amis et de leur dire comment naviguer cet intervalle dans lequel ils allaient vivre, que nous vivons, et cet intervalle dans lequel eux ils allaient vivre, prier sans relâche, pratiquer la justice. Alors l'oppression, les injustices, les maux de ce monde prendront fin. La Bible nous le dit. Et pour ceux qui mettent leur foi en Dieu, qui croient en Christ, il y a du réconfort. Quand nous regardons cet avenir dont Jésus parlait à ses amis et dont on trouve aussi dans les lettres de Paul et de Jean. Et donc, nous sommes appelés à prier en gardant la fin en vue. Juste avant de raconter l'histoire de la veuve, Jésus parlait de son retour à ses amis proches. Il disait ceci au départ, les gens mangeaient et buvaient, se mariaient ou étaient donnés en mariage, les gens achetaient et vendaient, plantaient et baptisaient. C'est la vie sur terre qui continue, qui suit son cours. Mais puis Jésus dit, il se passera la même chose le jour où le Fils de l'homme se révélera. Le jour où Jésus reviendra. C'est dans ce contexte qu'il parle de cette histoire d'injustice et la difficulté de la veuve et l'attente qu'elle expérimente en attendant que la justice vienne. Paul avait envie de voir ce jour-là, ce jour du retour de Jésus. Et il a exprimé cette envie dans un mot qui est utilisé une seule fois dans la Bible. Et ce mot, c'est « Maranatha ». Le mot « Maranatha » veut dire « Notre Seigneur vient ». Et ce mot « Maranatha », c'était plus tard une acclamation donc dans la langue araménienne utilisée dans les cultes de l'Église primitive. Maranatha, ça faisait partie de leur louange et leur prière, leur expression envers Dieu. Ces personnes qui étaient dans l'attente de revoir Jésus, de revoir leur ami et d'expérimenter cette justice parfaite qu'il allait amener vers eux. Puis on voit cette même idée, c'est pas le même mot, mais c'est cette même idée, cette fois-ci exprimée en grec, qui est utilisée par Jean. Et à ce moment-là, c'est Jean, l'homme avancé en âge, vers la fin de sa vie, cet ami qui était proche de Jésus, aimé par Jésus. Et lui aussi, il était victime d'oppression. Il était victime de l'oppression car les Romains voyaient les chrétiens comme un danger et les persécutaient. Et Jean lui-même était banni, isolé sur une île, Patmos, cette île qui servait de prison romaine. Et là, quand il se retrouve à cet endroit, il exprime ce même sentiment. Lorsqu'il achève l'écriture du livre de l'Apocalypse, il dit « Ershomai Kyrios Iesus ». Viens, Seigneur Jésus. Et donc pour nous, pour notre foi de chrétien si notre foi est réelle, c'est notre foi dans la personne de Jésus est réelle, nous aurons le désir de persévérer dans notre communion, dans notre communication avec Dieu. C'est-à-dire que nous prierons. Si nous sommes vraiment croyants, si nous sommes chrétiens, on prie, n'est-ce pas? Si notre foi dans la personne de Jésus et ses promesses de justice, de son retour, si notre foi est réelle, nous aurons le désir d'aligner notre volonté, ce que nous voulons, avec la sienne, ce que Dieu veut pour nous. Nous aurons le désir de le voir en plus. Je ne sais pas à quelle fréquence vous pensez au retour de Christ ou le fait de voir Jésus après la mort. Est-ce que vous avez cette pensée, cette réflexion, ce désir de le voir, d'être avec lui? Si notre foi et notre dans la personne de Jésus est réelle, nous aurons le désir de le voir. Et quand on pense aussi aux personnes qui sont aujourd'hui qui se trouvent dans la difficulté, nous avons le désir d'œuvrer contre les injustices, contre le mal qui existe, parce que le cœur de l'homme produit ce mal, ces injustices sur terre. Nous avons le désir d'être avec lui, avec Jésus, de le voir. Nous avons le désir qu'il revienne, car être avec lui, être vraiment avec lui, c'est être revêtu de sa justice et de vivre dans un espace sain, un espace sûr, sans risque, sans le danger d'un monde rempli de systèmes et de traitements inégaux et qui sont parfois lourdement souillés par la corruption et l'égoïsme. Être avec lui, c'est d'être libéré de toutes ces choses-là. Être avec lui, c'est le désir qu'exprimaient Paul et Jean. C'est ce qu'ils voulaient dire dans leurs lettres aux églises. Est-ce que c'est notre désir de voir son retour, d'être avec lui, d'être dans un monde, dans un espace, dans son ciel de justice? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que vous avez envie de voir ce jour-là ?